Bon, merci Vincent de cette invitation. Donc, moi, ce dont je vais vous parler, c'est une activité qui s'appelle Dead Media Forensic, qui est située entre, on va dire, entre pédagogie et recherche. Là, c'est une petite slide qui montre l'ancien terme de cette activité qui s'appelait reprogrammer au départ. Donc, je m'étais un peu amusé parce que on croit que tout le monde connaît le truc, mais c'est du lead speak, écrire en ASCII, reprogrammer. Voilà, c'était une petite blague pour démarrer. Alors, reprogrammer, ça fait partie d'une activité de recherche, comme je disais, qui se trouve entre la pédagogie et la recherche, dans la mesure où elle était un volet d'un programme de recherche qui a démarré vers 2015 à l'école de Valence, qui s'intitulait plus globalement « Il n'y a pas de savoir sans transmission ». Donc, c'est un de ces volets que j'ai animé jusqu'à présent, donc à l'école d'art de Valence. Donc voilà, ça, c'était une image du printemps dernier, puisque vous savez que les écoles territoriales sont dans une situation problématique. Hein, la presse s'en fait un peu l'écho aujourd'hui. C'est à la fois économique, statutaire, etc. Donc, on se demande si on peut vraiment faire de la recherche. Ça, je trouve intéressant de répondre à cette invitation. Voilà. Donc, ça, c'était les graffitis de l'année dernière. Vous voyez qu'au printemps, on était dans une situation, on est toujours d'ailleurs dans une situation compliquée. On dirait que les politiques commencent à s'y intéresser un petit peu, mais ça reste une question pour nous. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, Dead Media Forensic, excusez-moi, pardon, Dead Media Forensic, c'est une proposition de rebaptiser cette activité que je dois à mon collègue Dominique Cunin, qui fait évidemment référence très directement. Alors, il raccourcit, ça fait DMF.re, on a gardé reprogrammé. Ça fait directement référence évidemment à Bruce Sterling, autour du Dead Media Project, Dead Media Manifesto et Dead Media Handbook. Ah, c'est des choses que vous connaissez probablement. Donc voilà, ça c'est Bruce Sterling, qui en 95 avait un peu cette allure-là. Ça, c'est les premières interventions qu'il a pu faire autour de justement cette question des médias morts. Ici, c'est pas vraiment à Isaiah, mais le texte d'Isaiah est assez classique. C'est celui qui sert un peu de point de départ pour cette histoire des médias et de la vie des médias. Voilà quel était je résume en quelques lignes le texte Bruce Sterling, on a besoin d'un livre concernant les défauts et manques des médias, de leur effondrement, de leur remplacement, des médias étranglés ou étouffés. Un livre donc qui détaille précisément les erreurs aberrantes et atroces que nous devrions connaître assez précisément pour ne pas les commettre à nouveau. Donc il nous faut un livre dédié aux médias qui sont morts sur les barbelés du progrès technologique, des médias qui n'ont pas fait l'affaire, des médias martyrs, des médias morts, le manuel des médias morts. Donc voilà ce dont appelle l'appel que lance au public. Puisque là, on le voit dans cette image, ce que lance Bruce Sterling, c'est des disquettes, en réalité, des premières œuvres qu'il a identifiées ou objets qu'il a identifiés en termes de médias. Voilà, donc ça, c'est le texte qu'il publie en 1995. C'est un peu juste pour contextualiser cette histoire forensique. Et vous voyez que le terme lui appartient à ce texte-là, puisqu'il finit hein, les paragraphes en disant « We're into media forensics ». Donc c'est un appel qui est plutôt une sorte d'appel à une compilation, à une. À comment réunir une documentation. On pourrait dire que Bruce Sterling répond à voilà ce que j'ai lu tout de suite en le traduisant, répond à plutôt une logique d'inventaire, alors que donc elle sera partiellement réalisée 20 ans plus tard, donc en 2015. C'est pas le handbook, c'est pas le manuel qui est publié, mais c'est une première compilation, ce notebook hein, qui était. Réuni par un Anglais qui s'appelle Tom Whitwell, qu'on peut télécharger. Bon, c'est assez un drôle d'objet, il fait quand même 1000 pages. Rien que le sommaire fait une vingtaine de pages. Et donc, il fait l'inventaire de ces objets disparus. Alors, juste pour clore avec cette introduction sur le titre Dead Media Forensic, Bruce Sterling, dans son interview à Cetery, ici, définit très précisément finalement qu'est-ce que c'est qu'un média pour lui. Sa définition, c'est. Donc, un device that transfers a message between human beings. Alors, évidemment, on est toujours un peu embêté. Comment traduire ce device? Est-ce que c'est un appareil? Est-ce que c'est plutôt un dispositif ou un artefact? Enfin, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est dans le texte, à la suite, il parle de ce que ne peut pas être un média. Et il parle de la danse en particulier en disant que c'est une activité, mais qu'elle n'est pas justement incarnée par un objet de médiation. Voilà, donc ça c'était un peu la première représentation. Ce que je vais faire après, je vais vous parler en trois parties, un peu le contexte, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que dans cette activité qui est à la fois un atelier, un cours, un arc, enfin ça a changé de format, mais c'est une activité qui est partagée avec des étudiants. Je vais vous parler un peu du contexte. Ensuite, on va parler des outils qu'on utilise dans cet atelier. Et puis, je détaillerai une dizaine de réalisations d'étudiants et je finirai, si j'ai un petit peu le temps, mais vous me direz pour le chrono, avec des choses que je fais plus personnellement. Parce qu'une des questions de la recherche dans les écoles d'art, c'est qu'en réalité, en étant un peu radical, on peut dire que la recherche est plus celle des enseignants que celle des étudiants, puisqu'on n'a pas véritablement d'étudiants-chercheurs, enfin, sauf exception. En tout cas, dans le cas de la philologie des médias, aujourd'hui, on n'a pas d'étudiants qui sont au niveau post-DNSEP. Voilà, alors pour contextualiser en quelques mots des choses qui ont dû être probablement échangées et qui sont connues, je pense, de la plupart des gens qui sont intervenus précédemment, mais peut-être pas du public, je ne sais pas. Le réseau des médias variables, c'est quelque chose qu'on peut trouver encore facilement en ligne, 2004, un consortium entre le Musée Guggenheim, la Fondation Langlois, met en place des protocoles avec une ambition assez rigoureuse et scientifique, puisqu'il s'agit de développer des outils, des méthodologies et même des normes pour préserver et conserver des objets numériques. Je passe un peu rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, donc, comme j'ai mis l'URL, variablemedia.net, en page F, vous avez la version française, on peut retrouver des choses qui ont été évoquées précédemment, là, puisque je me suis connecté un petit peu avant, classique, c'est-à-dire à la fois stocker du matériel, émuler de manière logicielle, opérer des migrations, c'est-à-dire changer de support et de contexte de plateforme, on va dire, et réinterpréter, ce qui est peut-être par ordre d'éloignement, on s'éloigne des œuvres de plus en plus. Sachant que ces stratégies sont toutes valables et concomitantes, plus ou moins, elles ont évidemment des influences diverses. Ce que je pourrais appeler d'une manière plus globale la question des restitutions archéologiques, au sens vraiment très, très archéologique de terrain. Alors, des collègues qui ont été à Avignon longtemps, pas mal, qui sont maintenant à Orléans, Morgan Sricot en particulier, avait fait un travail que je trouve intéressant, qui est toujours en ligne à digitalis.pamal.org, où elle a tenté de faire un graphique précis, interactif, on peut cliquer, c'est sur le web toujours, avec ces questions de conservation curative, préventive, la question de la documentation, de l'archive, enfin, etc. Le fait d'avoir fait un cercle, c'est assez intéressant, puisque c'est aussi, ça accentue le caractère itératif des processus qu'il faut mettre en œuvre. Donc on retrouve à peu près la même terminologie, avec des détails sur lesquels je ne vais pas m'apesantir. Alors, ce qui se passe aux alentours des années 2000, c'est qu'aussi des institutions vont s'intéresser à ces questions numériques, et en particulier celui-ci, je trouve assez intéressant. Je ne mets qu'une slide ou deux, mais si vous êtes intéressé par l'art conceptuel et cette traduction que Cazares a fait de Sol Lewitt, les wall drawings de Sol Lewitt, c'est intéressant puisqu'il les a implémentés en logiciel. Et donc, il a fait ça en 2004. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est de voir que ça a été restauré en 2016 par lui-même, à la demande du musée probablement. En tout cas, c'est un travail qui est maintenu, qui est très documenté, qui permet de poser la question de l'implémentation des scripts, finalement, de Sol Lewitt en informatique. Donc, les institutions, mais aussi les institutions d'éducation à New York, il y a un programme qui a déjà 20 ans maintenant, puisque là, ils vont sortir la 20e génération, enfin, promotion, où ça s'est ouvert en 2000, 2004 ou 5, de ce lieu, ce MA, qui est comment, destiné à former des spécialistes de voilà, conservation, préservation et d'archives numériques. En particulier, j'avais trouvé en 2000, il y a tout un programme autour des petits Reactive Books de John Maeda, dont on va reparler tout à l'heure. Il y a des vraies études de cas précis avec vous voyez, des écrits critiques, décrivant, enfin, des textes critiques décrivant précisément les conditions dans lesquelles on peut à nouveau jouer ces objets, etc. Et enfin, un dernier programme pour contextualiser, pour savoir qu'on n'est pas isolé entre les États-Unis et là, on est en Allemagne, au ZKM. Un programme qui a duré 4 ans, je crois, entre 2011 et 2013, 2010 et 2013, qui a été publié en trois langues, anglais, allemand, français, avec un programme de conservation des œuvres numériques du ZKM à Karlsruhe. Juste une petite phrase là, pour contextualiser ce projet. Dans le dernier que je viens de présenter en 2013, donc Bernard Zirek, dans l'introduction, dit à propos de Muntadas, dont on parlera tout à l'heure, même les spécialistes informatiques et les nerds de notre maison n'ont pas réussi à lire correctement les données du CD-ROM, pourtant coproduit par le ZKM de Karlsruhe. Bon, c'est un peu étrange de lire ça de la part d'un chercheur. En réalité, nous, ça fait partie des programmes qu'on a essayé d'ouvrir. On va en reparler tout à l'heure. Donc, C'est plutôt une question de volonté et de moyens qu'une question de capacité, parce qu'évidemment, les chercheurs et les techniciens du ZKM auraient pu s'en occuper. Voilà, donc je termine un peu ce contexte par cette étrange remarque de Bernard Seirecks dans ce livre du ZKM, avec quelques outils et sources ou ressources. Donc, de quoi, qu'est-ce qu'on met à la disposition des étudiants pour mener à bien cet atelier d'aide-média forensique? Alors, une chaîne de matériel, ça c'est des ordinateurs personnels, hein, on revient un petit peu à des choses beaucoup plus simples. C'est pratiquement trois ordinateurs successifs de génération. Ce que j'ai fait dans cette image, c'est que j'ai montré les liaisons intéressantes qui permettent de passer des programmes à l'autre. L'ordinateur de gauche est un ordinateur qui permet de lire des disquettes. Entre les deux, on a un zip qui est un format intéressant puisque le zip existe aussi bien en SCSI qu'en USB, donc c'est une espèce de plateforme. Et puis depuis, évidemment, on a facilité avec l'USB d'interconnecter plus facilement des programmes issus de machines à des générations différentes. Alors dans les objets de référence, un objet vraiment intéressant puisque moi je m'intéresse beaucoup au multimédia offline, hein, au CD-ROM des périodes des années 90, et en particulier le premier. Bah, le premier, dans les premières années 89, on a cette méthode de musicologie, pardon, je reviens ici, Beethoven, la 9e symphonie, présentée par Robert Winter. C'est un cours de musique, et tout l'ensemble de la collection de Voyager Company présente un intérêt non négligeable, puisque ce sont les pionniers des années 80, fin 80, pendant 8 ou 10 ans, qui ont développé les premiers objets, on va dire, multimédia de l'histoire, en particulier donc aux États-Unis. Alors, il y a ce journal, un article de Geoffrey Brown qui fait toute une analyse de la virtualisation de cette collection. La collection, c'est à peu près 75 titres donc, dont on dispose à l'école à travers une collection que j'ai réunie patiemment. On les a presque tous qui ont été publiés. On a les catalogues. Vous voyez aussi des disques Jurassic Park en haut à droite derrière. C'est un format qui s'appelle Expanded Book. Voilà, donc ça, c'est à peu près les contenus de cette collection. Vous voyez les thématiques éducatives, musique, récits interactifs, jeux, documents, catalogues. Donc il faut se dire qu'en 89, on est avant le web, évidemment, puisqu'en 89, c'est l'année où le web s'invente. Et Tim Berners-Lee en a l'intuition, donc on est complètement contemporain de l'invention du web, mais pas de sa pratique et de sa diffusion large qu'on connaît aujourd'hui. Alors le CD Beethoven est intéressant, c'est un CD qui est très noir et blanc, programmé dans HyperCard, et en particulier je trouve que ce programme, ce qui s'appelle le programme, d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'on peut noter que c'est en français, hein, les ambitions de Voyager Company, donc ce premier éditeur américain était marché multilingue. Les premiers titres sont anglais, allemand, italien, français. Et évidemment, vous pouvez imaginer que là, à chaque élément du programme, je suis comme si j'étais au concert, j'ai un programme qui s'est déplié devant moi, je peux écouter de manière sélective les fragments musicaux. Donc ça, c'est un cours de musicologie, puisque ça permet d'accéder, de comparer, et ça remplace le pick-up qu'utilisaient jusqu'alors les chercheurs en musique pour montrer ou faire écouter des fragments dans un amphi ou dans un cours. Alors, si on se pose la question de reprogrammer ce genre d'objet aujourd'hui, rien que les questions typographiques, avec des CSS par exemple, on va poser des questions qui sont assez étranges. Est-ce qu'il faut se satisfaire de l'anti-aliasing ou pas? Donc, il y a deux hypothèses. On peut aussi faire des images, des captures qu'on va recoller comme ça, méticuleusement. Voilà, un genre de question. Il y a aussi l'environnement de l'époque. Est-ce que le cadre macOS 9, qui existait jusqu'à macOS 9, qui fait partie du logiciel d'édition qui s'appelle HyperCard est pertinent ou pas? Est-ce qu'il faut voir ça, cette barre qui se rétracte, etc. Et puis une autre question qu'on s'est posée en travaillant sur ces sujets, donc des livres, enfin des CD compagnons, puisque c'est de l'audio accompagné de contextes critiques, c'est de créer une espèce d'exomenu, on a appelé ça sur le côté, c'est-à-dire que hors cadre, on peut imaginer qu'on va avoir une circulation entre différents programmes, puisque en l'occurrence, il y avait six auteurs, après Beethoven, il y a eu Mozart, Strauss, Schubert, Stravinsky, Dvorak. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, comme ça, créer une espèce de méta, un objet qui soit supérieur aux 600 mégas d'origine? Voilà, donc tout ça nous met vraiment dans une situation un peu comme des archéologues au sens strict du terme. Ce n'est pas la métaphore de l'archéologie, mais c'est l'archéologie comme fragment et composition d'un tout. Et peut-être que Je trouvais que cette coupe-là, qui est partie au musée de Valence, est une inspiration pour savoir qu'est-ce qu'on y ajoute, est-ce qu'on est fidèle et est-ce qu'on a organisé dans une journée une éthique de la restauration ou de la restitution archéologique. Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas quand on n'a pas évidemment les auteurs sous la main. Voilà, alors la plupart des titres là sont aussi accessibles à travers un site que j'entretiens un peu à ma manière. Il y a environ 300 entrées de CD-ROM des années 90. On peut entrer par titre, auteur, collection, éditeur. Ça s'appelle readonlymemory.net. Et bon, là, il faudrait vraiment qu'une équipe m'aide pour remplir toutes les cases qui ont été produites par cette belle architecture. Il est loin d'être rempli et d'être complètement achevé. Alors justement, Muntadas, celui dont le ZKM faisait le constat de la difficulté à ouvrir, on a travaillé dessus et en 99, ça c'est la date de sortie, il y a une version qui a été émulée et qui était en téléchargement, qui est d'ailleurs encore en téléchargement, qui marche sur macOS 10 avec une encapsulation de ShipShaver, donc c'est un global. Là, on a pu faire ça parce qu'on était évidemment en relation avec l'éditeur ou l'éditrice Anne-Marie Duguay, qui nous a donné les sources et donc on a pu repartir du fichier original. Parce qu'évidemment, on se retrouve dès qu'on n'est plus dans macOS 9 devant ce genre de message d'erreur. Alors, dans les outils qu'on a mis en place à Valence, toujours dans le travail collectif que j'ai mené avec Dominique Cunin, on a à un moment discuté d'un outil d'obsolescence qui serait un outil en stratification comme ça, avec processeur, OS, support, logiciel auteur, et pour positionner, comme ici par exemple le Anarchive de Muntadas, à quel endroit il se situait dans cette. Évidemment, c'est une base orientée en fonction du temps en bas. C'est une espèce de timeline des techniques et des matériels. Bon, elle a été un peu raffinée un peu plus tard en sophistiquant différentes, enfin en affinant les supports et les outils d'authoring là ici, et on l'a mis à jour en partie. Alors, il y a eu un projet qui a été initié. Il n'a pas été développé finalement, mais que justement nous partageons avec le PAMAL à Nouveau d'Avignon à cette époque, le synchrotron, qui était l'idée de généraliser cette espèce d'outil pour faire un diagnostic plus global des objets ou des œuvres interactives. Alors pour revenir sur les objets du type Muntadas, voilà, l'idée c'est qu'à partir des. Il y a plusieurs façons d'accéder aux. On a parlé tout à l'heure, vous parliez des sources. Une autre façon, c'est évidemment de faire une espèce de rétro-engineering et de regarder ce qui se passe en tant que spectateur et de décrire de manière extrêmement fine les comportements observés. Donc là, tout ce qui est en rouge vient en distinguer les zones de survol qu'on observe. Et l'idée, c'est ici sur Muntadas, d'aller creuser, d'aller explorer et peut-être de reprogrammer en JavaScript, par exemple, pour faire une sorte de portage à partir de Director, hein, puisque ces objets ont été programmés en Director. Et pour en rejouer des parties, alors des parties pertinentes. Je pense que c'est un peu utopique de tout refaire, puisque c'est un travail absolument considérable. Par contre, d'avoir des trajets ou des parcours privilégiés, c'est envisageable. On l'a fait avec des étudiants. Donc il y a des parties qu'on peut réexplorer. Voilà, alors quelques réalisations qui sont plutôt le fait d'étudiants réalisés à partir de 2020-2021. On a un étudiant qui a fait un DENSEP, par exemple, qui s'appelle Vincent Maillard, qui était associé à tous ces projets de recherche, et qui a fait son DENSEP sur. Enfin partiellement sur une reprogrammation de ses recueils de poèmes de Burgo. Alors il a travaillé sur le site s'appelait À quoi ça rime. À l'époque, il était déjà plus en ligne, mais il a trouvé des sources sur l'Internet Web Archive que vous reconnaissez si vous connaissez ce cartouche en haut. Et voilà l'affichage qui était proposé dans les versions des navigateurs d'aujourd'hui. Et donc il a regardé le code source. Et une partie de son travail, ça a été de créer un écran comme ça dans lequel il est allé débusquer les obsolescences de code JavaScript et il les a corrigées. Donc en haut, on a l'exécution, on va dire, fautive, et en bas, on a l'exécution rectifiée, dont il a déduit quel était le blocage du code. Alors, c'est des choses extrêmement fines, juste des variables qui ont été modifiées. Voilà, ça c'est toujours ce même projet où en haut à droite, ça s'affichait plus du tout. Hein, puisque la variable n'était pas reconnue. C'est une poésie animée, hein, qui était le travail de Burgo. Et c'est plus du tout en ligne maintenant même. Alors, il y a d'autres travaux qui ont été faits à partir de livres d'enfants comme Alphabet de Květa Pakowska. C'est un livre pop-up assez connu très, très tactile. Vous voyez ici sur la page de gauche, par exemple, le bossage de la lettre D qui est sensible juste au toucher, hein, comme un livre de braille. Donc la traduction algorithmique de ce livre a été un défi qui a été relevé par Frédéric Durieux extrêmement brillamment en 99. Le livre est de 96. Il a existé donc une version produite par la NHK de Alphabet, de cette illustratrice tchèque. Et ça a beaucoup inspiré des étudiants. Alors, il y a un menu algorithmique où les lettres sont très massives, comme ça, elles tournent dans l'espace avec des effets d'encre assez complexes à reproduire. Donc, on a observé tout ça avec beaucoup d'attention. Et là où le terme forensic prend vraiment tout son sens, c'est que, avec des outils justement de décompilation, hein, vous parliez tout à l'heure de ces questions de code source, mon collègue Dominique en particulier, dont j'ai déjà parlé, avec qui travaille avec moi dans ce projet, a trouvé des outils qui permettent d'accéder aux sources, justement, même des objets directeurs qui ont été compilés. Alors, les étudiants, on leur suggère de faire un travail d'analyse très textuel. Hein. C'est comme ici, on faisait une documentation a posteriori, hein, c'est-à-dire identifier les formes, voir quelles sont leurs vitesses, leurs rotations, qu'est-ce qui se passe en fonction des gestes, etc. C'est comme si on refaisait le programme initial. Et puis de trouver les outils, Paper.js ou d'autres, qui seront capables d'émuler ou de reproduire les comportements qu'on observe. Alors, s'il y a des impasses, hein, tout ne marche pas. Mais en particulier, là, en 2021, Samantha, l'étudiante qui a travaillé là-dessus, a vraiment très, très bien réussi à reprogrammer ce menu-là. C'est un écran comparatif. À gauche, on a la vidéo d'origine. Et en 2021, elle a reprogrammé ça dans un format contemporain. Et ça marche plutôt bien. Un autre étudiant s'appelle Raphaël Botura, il s'est servi, lui, l'émulation de la lettre qui était tactile, le S dont j'ai parlé tout à l'heure. La résolution algorithmique était très brillante, c'était comme des petites billes un peu vivantes qui réagissent. Donc il a passé d'étape en étape pas mal de temps pour essayer de reproduire ces comportements-là, et ça a débouché sur quelque chose qui a bifurqué, puisque c'est devenu une espèce d'outil typographique dont on reconnaît un petit peu l'air de famille, mais qui s'est émancipé très largement de son modèle. Vous voyez que dans cette idée de reprogrammation, on peut aller très très loin dans la réinterprétation. Donc voilà, ça c'est quelques images, des slides de cette espèce de moteur typographique qui lui sert maintenant parfois à faire des affiches, des choses comme ça. Donc on est parti très loin d'Alphabet. Un autre objet que je trouve intéressant, donc on a pu mettre à disposition des étudiants, c'est Continue, une pièce de Dieter Kiessling de 97, publiée par le ZKM. C'est une pièce ironique, puisque l'idée, on le voit ici, l'écran commence avec Quitte et Continue, et quand on clique sur Quitte, ça quitte, quand on clique sur Continue, ben, il se passe quelque chose, c'est que ça divise l'écran par deux, et sans fin, apparemment sans fin. Donc, voilà un peu l'idée. On obtient une espèce de mise au carreau, comme ça, extrêmement fine. Et à la fin, il y a une blague, parce qu'en réalité, l'écran étant limité dans sa résolution, on ne peut pas aller au-delà de 19 étapes. Et donc, je me suis amusé, quand je présente ça aux étudiants, je plaisante en disant que je suis toujours le meilleur, enfin, je suis devenu le meilleur joueur au monde à Continue de Dieter Kiessling, qui est un jeu absurde, parce que j'ai détecté l'idée qu'il y aurait peut-être un pixel gagnant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie du programme qui est toujours noire. Et donc, peut-être qu'en positionnant, et c'est l'hypothèse que je développe ici en montrant les captures d'écran. Sous ces trois petits points, à un certain moment du programme, on est sûr d'arriver jusqu'au bout. Il y a une sorte d'enroulement, une sorte de suite mathématique qui fait qu'il y a une sorte de pixel gagnant. Alors, à partir de ce programme de démultiplication infinie, il y en a un étudiant qui avait fait More Frogs, ça dupliquait à l'infini. C'était bon, c'était pas très, très intéressant, mais plus intéressant. Vincent et Paul Hérisset, deux étudiants, donc 2021, ils ont fait un cube. Ils ont repris l'idée que ça se divise, mais non pas que ça se divise, mais ça devient de plus en plus petit dans l'écran et ça devient de plus en plus difficile d'atteindre la surface noire et la surface blanche. Donc ils ont créé un jeu dynamique en 3D et on a un score. Enfin, ça devient une espèce de. Voilà, ils ont poussé un peu Continue un peu plus loin. Dans ce travail de Georges Legrady, Slippery Traces, publié par le ZKM. C'est un travail justement sur l'archive et la mémoire où on clique dans des zones avec des mots-clés d'une zone à l'autre on pourrait dire une 500 cartes postales, c'est une sorte de base de données personnelles de l'artiste. Et on déambule comme ça de mots-clés en créant une espèce de déambulation iconographique dans les stéréotypes de la société américaine. C'est une drôle d'expérience. C'est une pièce intéressante, je trouve, Slippery Traces. Donc là, on accède au point chaud, c'est aux liens qui ont une valeur sémantique pour l'artiste. C'est lui qui a décidé que tel ou tel endroit avait tel ou tel mot-clé. Et il a fait un travail algorithmique assez complexe qui crée cette déambulation et qui l'a fait varier d'une fois sur l'autre. Il a rangé des catégories. Vous voyez ici, c'est la série des groupes sociaux. Il y a des, voilà, on peut accéder à ces endroits et revoir la séquence qu'on a opérée. Donc il y a une étude d'onde qui s'est servie de ce projet. Et encore une fois, en récupérant des sources, qui a créé une espèce de déambulation spatiale. Marie Madonna, elle s'appelle. C'est pas complètement fini, mais l'idée était assez belle, puisque quand on déambule dans cette base de données, on est un peu perdu. Donc elle a voulu pousser en 3D l'idée d'avoir ces zones à l'intérieur des images. Anaëlle Sermonson, c'est une étudiante qui a repris des travaux de John Maeda, en particulier un de ses reactive books s'appelle 12 O'Clocks, 96, qui montre juste 12 horloges qui reprennent évidemment l'heure de l'ordinateur. C'est une petite capture vidéo, donc c'est des animations assez dynamiques. Là, c'est les chiffres oscillent de gauche à droite. Ici, ils s'actualisent en couleur. Enfin, c'est une espèce de jeu de jeu d'horloge inventive comme ça qui emprunte l'heure à l'ordinateur. Et donc l'étudiante a dû recréer la typographie, trouver des scripts d'animation, etc. Tout, encore une fois, dans la même méthode, c'est à partir de l'observation, simplement. Voilà, ça ressemble à ça. Et puis ça, c'est une version un peu plus éclatée, parce qu'à un moment, le caractère très très contraignant des archéologies que les étudiants mènent les pousse à s'éloigner d'une restitution, on va dire, conforme, et à s'approprier les codes produits. Donc là, c'est une version du cube, une espèce de cube 3D qui correspond à un autre programme de John Maeda. Beyond, c'est un projet de Zoé Belloff que les étudiantes, là, c'était quatre, se sont appropriées de manière assez différente puisque c'est de la sérigraphie. Bon, tout le monde ne fait pas du JavaScript ou du CSS. Donc là, leur idée, c'était de s'approprier cet espace pour faire un lieu, voilà, à la fois décrivant notre activité, un DMF, et puis qu'est-ce que Beyond? On leur avait demandé de créer des sortes de posters scientifiques aux étudiants. Il s'agissait d'une exposition qu'on a menée à Cambrai l'année dernière dans le cadre de Open Open, à l'invitation de Kevan Aligari. Voilà, donc ça a été plutôt une volonté de créer un espace à partir de ces fragments d'écran. Et il y avait une version interactive et un livre. Dans le livre qu'on voit posé sur la table ici, c'est des parcours. L'idée, c'était que les parcours interactifs soient transposés dans des ouvrages. Un livre. L'idée, c'est qu'il y en a eu plusieurs. Autant de parcours que de livres. Il y avait un volet aussi interactif dans lequel elles ont fait des traductions, puisque le texte de Beyond, de Zoé Belloff, utilise Walter Benjamin, Baudelaire. Il y a toute une rêverie du 19e siècle sur l'histoire des médias. Dans les outils qu'on a partagés justement pour Open Open, il y a les Expanded Book Toolkit, qui est une version spécifique de Hypercard, développée par Voyager Company, que vous voyez sur la table ici. Et donc, pour expliquer l'idée du poster scientifique qu'on leur a demandé, c'était de créer. Le groupe des étudiantes ont créé une table avec justement des petits livrets. Vous voyez ici, quand le public est là, qui étaient détachables. Et donc, tout le monde partait avec des sortes de petites stacks, puisque l'idée des piles, qui est la métaphore de Hypercard, c'est de créer des sortes de cartes de cartes empilées. Chiara Joanneau, elle avait trouvé que la page Wikipédia de Hypercard était particulièrement mal documenté en français, donc elle est partie de la page anglaise et elle l'a traduite délibérément pour expliquer ce que c'était justement cet outil d'authoring. Et elle a imprimé la page Wikipédia qui descend jusqu'au sol. Litka Valet, elle est partie de Adventure, qui est un des premiers jeux en mode textuel en 72 qui permet de visiter son sous-titre classique, c'est Colossal Cave. Donc c'est une grotte dans laquelle on fait des découvertes, etc. Mais on travaille en mode texte. Et puis pour terminer, je crois que c'est à peu près non, c'est l'avant-dernier, Vermeer, deux étudiantes ont travaillé sur un format qui fait penser à deux publications, l'une de Starry Night, donc autour du tableau de Van Gogh, et Le cirque avec Seurat, qui est une analyse de tableau de la RMN. Dans la même collection, il existe 17 titres à peu près qui s'appellent Un sur un. Un auteur, une œuvre. Anna Ferry et Flora Pennisson ont choisi Vermeer Donc, c'est un livre. À partir du livre, elles ont essayé d'explorer une des pistes de multimédia existant, ce dont je faisais référence, celui de Van Gogh ou de Seurat. Donc, elles ont fait des affiches à nouveau, elles ont développé un site web, mais elles ont aussi fait des affiches très délicates qui reprenaient en fait un très grand fragment de l'atelier du peintre de Vermeer avec des apports théoriques qui sont un peu flottants comme ça. À l'écran, ça marche assez bien. Et donc, elles ont cherché une transposition affiche en impression de vernis sur les tirages numériques. Et précédemment, je voulais juste mentionner que Continue en 3D, c'était le poster des deux garçons, Vincent sur la gauche de l'écran. Et puis, il y avait aussi des écrans. Là, c'est à Cambrai, au mois de mai dernier. Et voilà, pour terminer, avant quelques projets plus personnels qui sont les miens, deux ou trois, mais je ne sais pas si j'excède un peu le temps là. Cédric Rossignol et Romain Laurent, ils ont travaillé à partir de Typeform Dialogue, ce qui est un CD-ROM intéressant puisque lui, il n'a jamais vu le jour. Il s'agit de typographie. Alors, il y a eu un prototype de fait dont j'ai récupéré les sources en Angleterre, et parce qu'il a été publié, c'est seulement le livret d'accompagnement. Mais pas la version numérique qui n'a jamais été complètement développée, mais qui a été simplement prototypée. Et donc, à partir de cette idée où il s'agissait de diffuser on va dire, des spécimens typographiques, hein, c'est une collection de spécimens typographiques de la Central Saint Martin School à Londres, ils se sont dit que le point fort de l'interface, dont vous voyez ici l'image, c'était de pouvoir comparer des typos entre deux écrans, droite-gauche. Et donc, ils sont partis de cette idée. Là, je vous mets quelques capture d'écran du projet. Donc Cédric et Romain, ils ont inventé un projet qui sont appelés Collation. Donc ils ont complètement transposé sur le web le projet initial de Typeform Dialogues pour, voyez, on a gardé l'idée de comparer des typos pour comparer les typographies qu'on a dans son ordinateur. Donc c'est un site qui est fonctionnel, qui s'appelle collation.fr et qui permet de coulisser des typos et de voir des points, plusieurs modes d'affichage. Et ce qui était au départ un principe de comparer des spécimens, eux, ils ont considéré que ce qui serait utile pour eux, c'est de comparer des typographies disponibles dans leur ordinateur actuel. Voilà, et puis deux, trois choses que je mène, puisque par ailleurs, on a une activité plus personnelle. Donc moi, je me suis intéressé à cette double publication de Max Boinsma sur DeepSite, ou site de création, qui est sorti en 2003 chez Tamman Hudson. Et une dizaine d'années après, je m'étais demandé qu'est-ce qui restait de ce site, enfin de ce livre, pardon, qui ne parle que de sites web. Donc on est en 2003, pleine période flash, tout est quasiment obsolète. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe deux sites HTML de Max Boinsma, dans lesquels il y avait tous ces liens qui font la couverture et dans lesquels on peut aller visiter des sites historiques, et il a fait un travail critique, il y en a quand même 140. Donc j'avais commencé à les lister, puis petit à petit j'ai mis des liens, puis au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'en les mettant en tapis, j'étais en train de recréer le site même de Max Boinsma. Et donc je me suis amusé à reprendre son site, mais en enlevant ce qui était obsolète il y a 10 ans. Donc voilà ce que ça donnait, c'est-à-dire il en restait 15%, je crois. Et puis je trouvais que ce n'était pas la bonne solution, donc en travaillant sur les CSS, puisque dans le fond j'avais mon propre site copie de Max Boinsma, j'ai créé une espèce de profondeur bleue qui donne la disparition progressive des sites. Plus c'est foncé, plus ils sont différents de celui dont il parle dans le livre. On écrit aussi des choses théoriques, hein. J'ai écrit un texte justement sur l'archive de Georges Legrady, archéologie ça s'est appelé avec Georges Legrady, archéologie à l'ère numérique, où c'est vraiment un texte d'analyse de tout son travail, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Je passe un peu rapidement. Et puis enfin, lors d'une exposition qui a eu lieu au Havre en 2023, on m'a invité à présenter ma collection de CD-ROM qui fait à peu près 300 articles, que j'ai appelé Meilleurs souvenirs de CD-ROM, comme si c'était une carte postale envoyée comme ça. Donc il y a eu une partie avec la question des formats, où je montre un peu cette histoire, les différentes publications, des CD audio, une cassette, enfin, etc. Dans des vitrines, il y a plein d'objets, parce que les objets ont une certaine présence visuelle, et puis des caméras, il y avait des écrans vidéo, puisque c'est un projet qui a mené. J'avais répondu à l'invitation de Bachir Soussi Chiadmi, qui est prof à l'école d'art du Havre, et qui a travaillé avec ses étudiants pendant un an à faire des extraits vidéo, justement, on parlait des sauvegardes, etc. Donc il y avait dans chaque thème, collection, musique, littérature, etc., des captures d'écran qui tournent au bout de chaque table. Donc voilà, c'est une espèce de. Voilà, des médias morts qui sont exposés ici comme dans une autopsie visuelle. Parmi les objets, il y a un objet de CNAI qui s'appelle Outline, publié par le CNAI de Peter Dansbro, dont l'interface a été faite par Aurélien Bombadjeni. C'est une interface en 3D. On a un espace, ceux qui connaissent le travail de Peter Dansbro reconnaissent certaines de ses maquettes, et ça permet d'accéder à des catalogues. C'est une espèce de catalogue raisonné en réalité, dont l'interface est une interface animatique en 3D. Voilà, je vous montre quelques écrans et je me suis amusé pour cette exposition à refaire la maquette de cet espace 3D qui n'a jamais existé en réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas une maquette de Dansbro, c'est une maquette qui n'a servi qu'à faire l'interface du CD. Donc je l'ai matérialisée, on pourrait dire. Alors ça fait une grande table d'1,60 m sur 2 mètres, avec des blocs assez fidèles aux maquettes de Peter Dansbro. À l'arrière, vous voyez aussi des images, je vais les commenter un petit peu plus loin pour finir. Donc voilà, ça fait une maquette en carton. Ils sont assez proches de ce que lui a commandé, enfin ce qu'il commande à ses maquettistes quand il fait des Dansbro, avec des petites typographies, etc. Voilà. Et là, ça, c'est une compilation des couvertures de Beyond, Zoé Belloff, puisque Zoé Belloff, quand elle a publié Beyond, que certains étudiants ont produit en affiche, hein, vous avez vu tout à l'heure, elle s'est servie de phototypes originaux qu'elle a achetés aux puces à New York. Et chaque CD a une image différente. Et donc, je suis amusé à créer une espèce de réseau amical en demandant aux gens que je connaissais qui avaient Beyond de m'envoyer une capture ou un scan de leur propre exemplaire. Et donc, ça crée une espèce de galaxie d'images qui sont des phototypes des années 30-50, qui parlent aussi de ces questions d'archéologie photographique. Voilà, un plan rapproché. Et puis, enfin, pour terminer, on a parlé de John Maeda, je me suis amusé à commencer à reproduire dans DBN, qui est un logiciel d'apprentissage qui a permis ensuite, enfin qui a été extrapolé ensuite par Ben Fry et Casarias dans Processing. Donc l'ancêtre de Processing, c'est donc DBN, le cadre bleu que vous voyez ici. Et je me suis amusé à commencer à reprogrammer pratiquement tous les 10 programmes de Flying Letters. Donc ça prend la forme d'une espèce de travail en cours assez léger, comme ça, imprimé sur du format A4. Voilà pour terminer. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un petit livre chez B42 qui est un fragment de ma thèse qui parle de ces questions d'édition offline, c'est-à-dire qui parle des années 90, 2000. Voilà. J'espère que je suis dans les temps. J'ai un peu dépassé ou pas? Pardon, on n'entend pas très bien
Oui,
dans la salle.
merci beaucoup Gilles. Alors je me rends compte que, enfin je me suis rendu compte un peu plus tôt qu'on était un petit peu en retard, donc tu n'as pas été présenté. Donc vous avez entendu Gilles Rufino qui est enseignant à l'ESA de Valence, comme vous l'avez probablement compris. Il est chercheur associé à l'équipe d'accueil 74-72, pratique et théorie de l'art contemporain à l'université Rennes 2. Et voilà, j'allais aussi citer cet ouvrage-là, Édition Offline. Voilà, parce que ça représente assez bien ce qu'il fait. Merci beaucoup, Gilles, pour cette présentation et d'avoir mis en avant aussi les travaux des étudiants et étudiantes avec lesquels tu travailles. Et ouais, je pense que ça nous donne un petit peu aussi une idée un peu concrète de comment est-ce que valoriser le travail d'étudiants et étudiantes, ça peut aussi permettre de voyager dans le temps et dans l'histoire de l'art. Ce qui est là, c'était en tout cas assez clair, une manière de réinterpréter, de se réapproprier le passé, etc. Donc, merci infiniment.
Merci beaucoup Gilles. On a peut-être le temps pour une petite question. Est-ce que on n'a pas de questions? Ah, écoute, alors merci beaucoup. Ouais.
Merci beaucoup. Et donc maintenant, on va avoir l'intervention de Sébastien Piquemal qui va nous parler de sa pratique et j'ai pas noté en fait de titre précis à cette intervention, mais tu vas peut-être nous en dire un peu plus. Entre-temps, pendant que voilà ce qui se passe là, pour les gens qui sont à la radio, on est en train de mettre un câble HDMI d'un ordinateur dans un autre ordinateur pour pouvoir projeter des images que donc à la radio vous ne pourrez pas entendre, mais on va vous les décrire avec une attention toute particulière et merci beaucoup pour voilà, toute cette magie. Vincent Rioux là, est en train de remercier Gilles
Oui.
Rufino.
Je n'ai pas du tout entendu de quoi qu'est-ce qu'il est dit, mais c'est pas grave. Le son, quand il n'est pas dans le micro direct, est difficile pour nous parce qu'il y a
Tu
beaucoup
peux nous
d'écho.
écouter sur radioballe.fr.
D'accord.
Ouais, ça marche bien celui-là. Ouais. Hello. Donc,